Bonjour, c'est Zoé de Louis. Devenir parent, c'est ouvrir la porte vers une nouvelle vie pleine de changements et vers un nouveau rythme qui est parfois compliqué à gérer. Comment continuer à sortir après la naissance de son enfant? Et comment trouver des lieux appropriés? Evian, l'eau parfaitement adaptée aux besoins d'hydratation des bébés qui soutient ce podcast, a recensé avec l'aide de jeunes parents les adresses idéales à Paris, Lyon et Marseille pour sortir avec ses enfants. Evian soutient les nouveaux parents dans leur mode de vie et leur approche de la parentalité. Un peu comme Fête des Gosses finalement. Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
Ça, c'est mon fils. Il est chou, non? Il est si mignon avec ses boucles blondes, ses joues toutes rondes et sa petite guitare. Il est si attendrissant quand il me prend le visage le soir et qu'il me dit « Ça va, ma petite maman chérie ?» ou quand il va faire un câlin à un copain qui a un chagrin. Mais l'enfant a un côté sombre. À la crèche, il frappe. Plusieurs fois, le soir, je me suis retrouvée face à un bébé en pleurs parce que mon fils l'avait mordu. Un jour, un parent m'a dit « C'est lui le boxeur ?» Et régulièrement, les auxiliaires de puériculture me rapportent qu'il a cogné les enfants et les adultes. Le plus compliqué pour son père et moi dans cette histoire, c'est qu'on nous en parle assez régulièrement pour que ce soit un sujet, mais pas de manière assez solennelle pour que l'on s'en préoccupe vraiment. Est-ce qu'il faudrait? Pourquoi certains enfants mordent, frappent ou tirent les cheveux? Est-ce de la violence ou un trop-plein d'émotions? Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que c'est leur environnement qui les pousse à la violence? Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses.
Faites des gosses.
Faites des gosses. Faites des gosses.
C'est une idée fausse de dire que tous les enfants d'un âge donné, en fait, utilisent la force physique pour, par exemple, s'imposer, pour récupérer un jouet, pour des fois résister au fait qu'on cherche à leur prendre le petit jouet qu'ils ont dans la main. Bon. Parce que, à l'observation, ça tient pas.
Wilfried Ligné est sociologue spécialiste de l'enfance, directeur de recherche au CNRS et auteur de « Prendre », une enquête d'un an dans une crèche parisienne. Il y a observé cette mini-société et s'est tout particulièrement intéressé à un geste, celui de prendre. Prendre un jouet, le prêter, mordre pour le récupérer, frapper pour se l'approprier. Prendre pour prendre sa place dans le monde et pour, c'est ce qu'il a découvert, déjà reproduire les inégalités.
Et c'est vrai que parfois à la crèche, le fait de vouloir rassurer les parents va aller de pair avec le fait de leur dire « Vous inquiétez pas, en fait, ça arrive à tous les enfants, on passe tous par cette phase. » Même l'idée qu'ils passent tous par cette phase. Il y a plein d'enfants qui ne passent pas par cette phase. Moi, je suis en train d'observer des enfants depuis 3 ans dans une crèche, ils sont en section grand maintenant. Il y a plein d'enfants que je n'ai jamais vus taper. Alors, ça a dû arriver, ça peut arriver, mais à l'inverse, il y a des enfants qui tapent tout le temps. D'ailleurs, on le voit bien quand on commence à découper les violences. Mais alors, si je les découpe un petit peu, c'est quoi le type de violence d'un enfant de 2-3 ans? Bon, il y a les morsures, il y a les coups de pied, il y a les claques, il y a les coups de poing, la main fermée. Il y a aussi les crachats, en fait, les crachats volontaires. Donc, non seulement il faut dire tous les enfants ne font pas ces 5 choses-là, mais il y a même des enfants qui n'en font quasiment aucune, en fait.
Vous avez remarqué que Wilfried Ligné parle de violence. Dans les crèches, on bannit ce mot. On a tendance à mettre les morsures, les coups, sur le compte d'une difficulté à s'exprimer. Ils tapent parce qu'ils n'ont pas la parole, ils tapent parce qu'ils sont submergés. C'est aussi ce qu'on a dit à Jordan quand son fils s'est mis à s'en prendre aux autres. Jordan a 32 ans, il est électricien, et lui s'est retrouvé des deux côtés du problème. Son premier enfant se faisait mordre, et le deuxième mordait.
Forcément, la réaction d'un parent, ça te prend aux tripes. Et tu te dis, mais pourquoi ses parents ils font rien? Pourquoi ses parents ils lui disent pas d'arrêter de mordre? Pourquoi ses parents ils font pas la même éducation que moi, vu que moi, ma fille, elle mord personne. Donc forcément, tu te crois un peu au-dessus des autres parents en te disant, ben moi, ma fille, elle mord pas, ça veut dire que je fais très bien. Et puis, elle se fait mordre, ça veut dire que les parents de ce petit garçon font pas les choses comme il faut. Enfin, du moins, c'est une logique primaire qui arrive comme ça. Mais bon, après quelques temps et surtout après le deuxième enfant, quand Ethan est arrivé, ben voilà, j'ai compris l'autre point de vue, c'est-à-dire que Ethan mordait. Alors à la crèche, ben quand je le récupérais et qu'on me disait bon voilà, il a aujourd'hui mordu un petit, à chaque fois ben, j'étais désolé, désespéré. Et heureusement, ça dépendait de l'interlocuteur en face de moi, c'est-à-dire qu'il y avait des dames qui étaient très gentilles et qui m'expliquaient que c'était pas grave, que ça venait pas de mon éducation, que c'était un phénomène normal chez les enfants. Quand ils n'arrivaient pas à exprimer leurs émotions et quand ils étaient submergés d'émotions, ils mordaient et qu'on pouvait rien y faire. Donc bon, ça m'a rassuré quand même. Et là, je comprenais bien que ça dépendait pas du tout de l'éducation. C'est vraiment une frustration ou une pulsion, comment dire, naturelle. C'est comme ça aussi que le pédopsie avait expliqué. Une pulsion animale un peu, qui faisait qu'il mordait quand il n'arrivait plus à répondre ou à contrôler la situation.
Cette manière de dire que c'est normal, que c'est une incapacité à s'exprimer et presque quelque chose de naturel qui pousse les enfants à la violence, c'est aussi ce qu'a entendu Nathaniel, réalisateur de 39 ans, quand son fils Abel, comme le mien, mordait tellement qu'il a fini par consulter un pédopsychiatre.
Alors mon fils, il a commencé à mordre quand il avait 1 an et demi à peu près. Au début, c'était occasionnel. Parfois, on a commencé à nous en parler à la MAM, la maison d'assistante maternelle, tout en nous disant « vous inquiétez pas, il y en a plein qui passent par là, c'est pas un problème ». Et ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu inquiétant quand un jour la MAM nous a convoqués, donc sans lui, pour nous dire qu'en réalité, ça faisait des mois qu'Abel y mordait, qu'il mordait beaucoup, qu'il mordait super fort, et qu'il mordait un peu tous les enfants, et peu importe le problème. C'est-à-dire que ça pouvait être de la frustration, s'arracher un jouet des mains, ça pouvait être quand il est très content, il y avait beaucoup trop de raisons. Et elle nous disait qu'elle savait plus trop quoi faire, parce que dès qu'elle le laissait seul dans un coin, bah, il se jetait sur une épaule, un bras. Donc en plus, c'était à l'approche de l'été que c'est devenu intense, donc les bras étaient découverts. Donc, on en a aussi parlé à la crèche. À la crèche, ils nous ont dit que pour eux, il n'y avait vraiment aucun problème, qu'ils étaient sans cesse confrontés à ça. Et eux, ils n'en parlent pas aux parents. Enfin, ils en parlent aux parents quand vraiment ça pose un gros problème, et ça arrive rarement. Et surtout, ils ne donnent pas aux autres parents le nom des enfants qui ont mordu. Donc, c'est tout un monde. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par aller voir une pédopsychiatre pour demander, enfin, savoir un peu quel était le problème, comment le résoudre. Et elle nous a posé plein de questions sur son comportement, sur ses frustrations, sur tout un tas de choses, sur comment ça se passait à la maison aussi. Et en fait, sa conclusion, c'était de dire, mais en fait, cet enfant va très bien, il évolue, c'est normal qu'il passe par là. Et finalement, c'est comme s'il croquait la vie. Moi, j'avoue que je suis parti pas rassuré, parce que je me suis dit, en attendant, il continue à croquer les autres enfants, et ça va finir par poser des problèmes. Donc là, on a un peu pris les devants en envoyant un message à tous les parents de la MAM, pour leur dire, voilà, on sait qu'il y a un problème, on le traite, on fait ce qu'on peut, soyez patients et désolé d'avance pour les morsures à venir. Et ça a tenu un temps, jusqu'au moment où, évidemment, il y a une maman qui a craqué et qui nous a envoyé un message un peu d'ultimatum, donc à l'approche des grandes vacances, pour dire, voilà, maintenant, ça suffit, j'ai encore récupéré mon enfant mordu. Elle nous envoie une photo de la trace, c'est vrai qu'elle était assez corsée. Elle nous dit qu'elle avait déjà vu notre enfant se jeter sur lui, le pousser, mordre, et qu'en fait, c'était un peu dur, parce qu'elle disait qu'il n'avait pas d'empathie. Et moi, je réagis très simplement. En fait, on a parlé à cette maman, on a essayé de la rassurer, on lui a dit qu'on faisait vraiment de notre mieux. Elle a dit, moi, je veux pas que vous fassiez de votre mieux, en fait, je veux que vous trouviez une solution immédiate. Et donc là, bah, tout le monde est un peu désemparé dans ces moments-là, les parents d'enfants mordeurs et les parents d'enfants mordus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et on m'a suggéré de l'enlever de la MAM. Moi, j'avais plein de travail, je pouvais pas du tout faire ça, en tout cas pas à ce moment-là. Et on en a parlé pas mal autour de nous. Et finalement, la conclusion, ça a été de vite consulter une psychomotricienne qui, par le jeu, on va dire, balance des messages à l'enfant. Enfin, discute avec lui, lui comprend tout. En réalité, il sait qu'on parle de lui dans ces moments-là, il sait ce qu'on se dit. Et ça, ça a un petit peu changé la trajectoire des choses.
Dans quel sens ça a changé ? Je vous garde la suite de l'histoire de Nathaniel pour tout à l'heure. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on lui a affirmé que la violence de son enfant était une sorte de débordement d'émotions.
Si. Non, doucement. Si. On tape pas
sur les... Si cela peut être vrai dans certains cas, Wilfried Ligné regrette qu'on utilise cette explication à tout va. Pour lui, un enfant qui frappe le fait avec une intention de nuire. Et si on le nie, c'est selon lui à cause d'une culture irénique du monde de la petite enfance et de la crèche. C'est-à-dire une attitude qui se concentre sur ce qui rapproche plutôt que sur ce qui divise. Dans cet environnement, les enfants sont considérés comme naturellement bons et donc incapables de faire délibérément du mal.
L'idée du débordement, c'est quoi? C'est que ça ne rentre pas dans une logique d'action. Vous voyez, la métaphore du débordement, c'est incident. Vous étiez en train de remplir quelque chose et puis ça a débordé, c'était pas prévu. Ben, c'est ça le débordement. Or, en fait, ça s'oppose à quoi? À tous ces moments où les jeunes enfants, alors certes jeunes, ont une ligne d'action qui est clairement orientée vers faire du mal. Mais il ne faut pas non plus faire plaisir dans l'autre sens et dire « Ah ben en fait, les enfants sont méchants intrinsèquement. » Non, les enfants, ils sont méchants et gentils, comme nous les adultes. Ils sont à la fois méchants et gentils, mais il ne faut pas s'inventer des histoires en disant qu'ils ne sont jamais méchants. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de moments où, en gros, ils sont frustrés, leurs intérêts sont bloqués par les autres, et ils en ont marre des autres, et voilà. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose de relativement normal.
Faites dégueulasse.
Ce con m'a mordu.
Croc, croc.
Faites dégueulasse.
J'ai mal.
Faites dégueulasse.
C'est pas gentil, vous n'êtes pas gentil.
Faites dégueulasse.
La question des raisons pour lesquelles les enfants mordent, tapent, etc., elle est très intéressante à traiter parce que, déjà, elle fait l'objet d'un discours qui est immédiatement présent, par exemple dans les crèches. Quand on regarde, par exemple, les petits dépliants qu'il y a sur les morsures, quand on regarde les explications, la réponse à cette question-là, cette question est souvent posée, pourquoi les enfants mordent ou tapent? Et il y a des réponses qui sont, de mon point de vue de sociologue, beaucoup trop iréniques, un peu bisounours. C'est une manière d'exprimer, carrément son amour pour les autres. Il a essayé de faire un bisou, puis en fait, ça a raté. Ou des formes de non-maîtrise de son corps, etc. Ce qu'on observe quand on regarde réellement les enfants, ce que moi je pense qu'il faudrait défendre plus pour avoir un rapport plus réaliste aux enfants, c'est que dans un certain nombre de cas, je dirais même pour moi, de mon expérience, dans la majorité des cas que j'observe, quand un enfant mord, il souhaite faire du mal à un autre enfant. Il ne souhaite pas lui faire un bisou. J'imagine qu'il y a des cas, ça doit exister, mais cette idée-là, par exemple, moi je l'ai entendue énormément en crèche, même par exemple sous forme de préconisation aux parents. Arrêtez de faire des « Ah là là, je vais te manger !» Parce qu'en fait, ils essayent réellement de manger leur camarades. Je pense qu'elle est plutôt un témoignage d'une culture de l'enfance et de la petite enfance actuelle dans laquelle on nie toutes les formes de conflictualité qu'il y a entre les enfants. Or, cette conflictualité, elle existe, et à partir du moment où de toute façon elle sera là, moi je pense que quand on la nie, on produit une forme de malaise chez les parents qui est encore plus fort. S'il s'avère que le gamin mord, ou qu'on l'a vu vouloir mordre, par exemple, parce que chez soi, par exemple, on est la maman ou le papa, souvent la maman, et on se fait mordre soi-même, ou donner un coup de pied, et on voit bien que c'est pas parce qu'il voulait nous faire un bisou, on va se dire, mais c'est pas possible, en fait, il a de la haine en lui, qu'aucun enfant, autre enfant, n'a. Alors, c'est une chose de dire que tous les enfants ne sont pas violents, c'en est une autre de nier toute conflictualité, en fait, dans le rapport que les enfants ont au monde. Les enfants, parce que c'est des petits humains, ils ont des moments où ils détestent les autres, où ils leur en veulent. Et à mon avis, on ferait mieux de regarder ça de manière beaucoup plus directe. Bon. Et donc, pour répondre à la question de pourquoi les enfants mordent, peut-être une première réponse toute simple, c'est parce qu'ils en veulent à d'autres enfants. Et ça leur arrive.
Mais alors, si tous les enfants ne mordent pas, que les accès de violence ne sont ni un débordement, ni une manifestation d'amour, cela suppose qu'il y a peut-être des profils. Peut-être qu'un jour, mon fils tuera des petits chatons en masse, et que dans la presse, on racontera que déjà, il tirait les cheveux de ses camarades de crèche. J'ai donc demandé à Wilfried Ligné si on pouvait faire un portrait robot de l'enfant mordeur. Vous avez remarqué que Nathaniel, comme Jordan et comme moi, ont eu ce problème avec un garçon. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on me dit. « Oh, c'est normal, c'est un garçon. » C'est à la fois vrai et faux. Wilfried Ligné me l'a confirmé. La question de la violence des petits-enfants a déjà une réponse genrée.
Moi, ce que j'observe dans donc deux enquêtes successives, en fait, en crèche, et qui correspond un petit peu à certaines observations là, de ce qu'on appelle la psychologie de l'agression, c'est la question du genre est quand même assez importante. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt des garçons. C'est quelque chose que moi, je vois aussi beaucoup dans mes enquêtes. Il y a des exceptions, mais quand vous regardez les champions en fait, de la violence, c'est souvent en fait, des garçons. Après, déjà, il faudrait dire que c'est une question de genre, déjà plutôt que seulement une question de sexe. C'est-à-dire que vous, la différence entre les deux, c'est de dire que le genre, vous savez, on pouvait être plus ou moins genré suivant votre sexe. C'est-à-dire que vous êtes un garçon très garçon, une fille. Et ce qu'on observe parfois, c'est que dans les exceptions, ça va aussi être une question de genre. Ça va prolonger cette question-là. C'est-à-dire que vous avez des filles qui, par d'autres propriétés, les manières d'être habillées, le fait qu'elles aiment bien jouer au foot, etc., bon, vont être, pouvoir être décrites, par exemple, par les parents ou les professionnels comme étant un peu masculines. Ben, ça peut aller avec le fait qu'elles savent aussi qu'elles ont tendance à taper. Bon, encore une fois, ce n'est pas mécanique, mais en tout cas, là, il y a des associations. Ce qui pose la question de savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi les garçons... Alors là, il y a plein de choses. Hein. Il y a peut-être des questions éducatives, etc. On pourra y revenir. Mais il y a aussi, comme c'est quand même des gestes physiques à performer, alors, mordre, y aller à fond, taper vraiment. On voit bien en fait, que c'est aussi, ça peut être raccord avec un certain nombre d'activités physiques qu'on fait plus faire aux garçons. Et qui rendent déjà ces gestes possibles avant d'être autorisés, d'être assumés par les petits garçons de cet âge-là, quoi.
Si les garçons ne sont pas biologiquement programmés pour faire davantage usage de la force, en revanche, dans notre société, ils acquièrent très tôt ce que Wilfried Ligné appelle la capacité de frapper.
Et c'est peut-être aussi ça qui rend les garçons potentiellement plus violents physiquement que les filles. C'est parce qu'ils savent faire des gestes rapides, y aller à fond. Voilà. Sinon, c'est pas facile de taper, en fait. Donc, il arrive que des filles, malgré tout, essaient de taper, mais le problème qu'elles vont avoir, c'est qu'elles vont pas au bout de leurs gestes, par exemple. C'est qu'elles vont commencer à montrer la main, elles vont pas y aller à fond. Et c'est pas seulement parce qu'elles ont pas envie de le faire, voilà. C'est parce qu'elles ne parviennent pas à le faire, on dirait nous, elles sont pas disposées à le faire. Donc ça, c'est un point important parce qu'on ne voudrait pas croire que les questions d'être violent ou pas, c'est uniquement des questions d'envie de l'être. C'est aussi et inséparablement des questions de capacité à l'être, même si l'idée de capacité à être violent peut sembler surprenante quand on a une idée que des capacités qu'on développerait, ça ne serait pas la violence, c'est justement le fait de retenir en fait, ses coups. En fait, non, tout se développe. En fait. Être violent, ça se développe. Être pas violent, ça se développe. En fait, et c'est une question d'histoire en fait, personnelle des enfants, qui évidemment pas qu'une histoire uniquement personnelle, mais qui va impliquer les rapports éducatifs, notamment en famille, aussi en crèche, etc. Et pourquoi c'est intéressant de penser comme ça? Parce qu'une fois qu'on dit ça, on voit la finition qu'elles peuvent avoir avec le fait que ce sont des compétences qui se développent en lien avec des compétences qu'on trouve plus heureuses. Et c'est pour ça qu'on trouve des questions de masculinité en fait là-dedans.
Ce que dit Wilfried Ligné, c'est qu'à 2, 3 ans, un corps est déjà cultivé et socialisé. Des données physiques se sont incorporées à des données sociales et culturelles, et les muscles des petits garçons se développent aussi par l'usage. Parce que notre société encourage, parfois avec de bonnes intentions, la pratique de la violence chez les petits garçons.
Oui, c'est comme la mère de Camille, j'avais parlé avec elle aussi, et elle me disait que pareil, il tapait beaucoup, il mordait, machin, et elle me disait, mais en fait, mon mari est rugbyman, et à la maison, il lui apprend les plaquages. Mais en fait, à ces âges-là, mais c'est pareil, enfin, moi, mon conjoint, ils ont un grand frère aussi, ben, en fait, ils font la bagarre. Ils jouent à la bagarre. Sauf que, à leur âge, comment tu veux leur apprendre exactement à différencier? Là, c'est la bagarre pour jouer, là, c'est le rugby pour jouer, mais par contre, taper pour de vrai, c'est pas bien.
Quand vous éduquez un enfant au fait d'être dynamique, d'être à l'aise avec son corps, d'être vif, de savoir courir, de plein de choses qui sont très positives, vous l'éduquez aussi à être capable de faire des gestes rapides qui servent en fait éventuellement à la violence. Donc c'est pour complexifier un petit peu l'idée uniquement que c'est quand on lâche la barre, quand on fait rien en fait. Ça c'est une idée en fait très très partagée, parfois même aussi parfois par certains sociologues, mais qui vient en fait beaucoup de la psy. C'est l'idée de dire qu'on aurait la violence en nous, et puis que la société en fait elle vient la baisser en fait, la calmer d'une certaine manière. Or non, il faut plutôt se poser la question, et c'est intéressant même pour les parents, en fait, de qu'est-ce qui fait qu'on devient simultanément capable d'user son corps de manière très vive, par exemple, et partie un peu moins heureuse que du coup on va être capable de taper.
La violence s'apprend, et on l'encourage chez les garçons.
La bagarre, c'est frapper, mais c'est un peu rigolo, vous voyez, même le mot le dit. Donc déjà, on voit très bien qu'il y a une espèce d'euphémisation de choses. Et les enfants, ils sont sensibles à ça, en fait. Hein. Alors là, je le dis juste sur le côté euphémisation, mais il y a plus que ça, il y a une valorisation. Et une valorisation de quoi? D'un entre-soi, souvent masculin, en fait, de bah, c'est normal, ça fait partie de l'idée qu'on se fait d'un petit garçon qui va bien, du fait que bah, il peut se chamailler, bon, sans que ça soit violent, évidemment. Les gens. Mais je pense qu'effectivement, ça, c'est des questions qu'on doit avoir aussi. C'est qu'il y a une part aussi du qu'est-ce qu'on laisse faire aux enfants, non pas chacun son enfant à soi, mais aux enfants entre eux et qu'on considère comme plutôt marrant ou sympa. Alors après, c'est pas pour de promouvoir une vision de la vie des enfants irénique, dans lequel en fait il y aurait jamais des conflits, notamment des petites bagarres, etc. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui dit aujourd'hui on a fait la bagarre à la crèche ? C'est intéressant parce qu'en plus ils disent quand même pas tant de mots que ça, ces enfants. Parmi les mots qu'ils nous disent, ils ne nous racontent pas tant de choses, pas tant d'histoires de ce qu'ils font à la crèche. Donc si on regarde du point de vue du lexique, du point de vue de ce qu'on appelle, nous, le storytelling, les petites histoires qu'ils racontent tous les jours, ils ne vont pas en dire 10, des mots et des petites histoires, et parmi eux, il y aura le mot bagarre et puis des récits de bagarre. On voit déjà la place que ça peut avoir. Ça va être différentiel. Quelles sont les petites filles qui rentrent en disant... Même quand on le dit, on voit tout de suite le problème. On imagine beaucoup moins une petite fille qui rentre et qui dit « Aujourd'hui, on a fait la bagarre ». Ça arrive, hein. Mais on voit très bien que c'est solidaire d'une espèce de culture masculine. Alors, par exemple, je prends un exemple réel, c'est le père qui me dit, cette fois-ci comme par hasard c'est le père, qui me dit bah, lui que souvent il regarde Zorro à la télé avec son petit enfant qui est encore en crèche pourtant, puis après il joue à la bagarre en fait avec son fils, et puis c'est rigolo, c'est un bon moment entre le père et son fils. Bah oui, mais là il se dessine une culture masculine qui fait que... C'est, encore une fois, ça ne va pas tout faire. Ça ne va pas faire ça égale tac, il tape à la crèche. Mais si vous pouvez rajouter ça, plus ceci, plus ceci, plus cela, des modes éducatifs, des formes de mensuétude au moment où ça arrive, le moment où il va faire la première fois, il va taper, le petit garçon en particulier, la capacité de s'exercer à la question, le fait qu'il n'y a peut-être pas forcément suffisamment de personnel en crèche pour immédiatement arrêter les gestes violents, parce qu'on est toujours au pire du pire de l'encadrement, parce qu'il n'y a pas assez d'argent public qui est mis dedans. Bon, tout ça va finir par faire un truc dans lequel vous allez avoir une conjonction de forces qui vont dans le sens que ça devient possible, le fait que se développent des choses de la violence physique particulièrement masculine.
On ne peut pas dire que la violence des enfants s'apprend en éludant l'idée très répandue que les enfants qui mordent ou qui frappent seraient ceux qui sont confrontés à la violence chez eux, dont les parents se parlent comme du poisson pourri dans le meilleur des cas ou sont violents dans le pire. Mais c'est un peu plus compliqué que ça.
On pourrait avoir de manière un peu facile l'idée de dire bah, ça doit être dans les familles où on est violent, en fait. C'est d'ailleurs une question, un point qui est assez important pour les parents qui ont des enfants qui se mettent à taper, etc. Ils sont souvent surpris de dire mais on ne fait pas ça à la maison. Ils ont aussi peur, ce qui est tout à fait légitime, que par exemple leurs interlocuteurs à la crèche pensent que c'est parce qu'on est violent à la maison que le gamin se met à taper, etc. En fait, non, c'est plus compliqué que ça. C'est dans le développement, par exemple, d'activités physiques sportives ou de, je sais pas, vous êtes au parc, vous êtes content que votre enfant, il arrive à monter facilement la petite échelle, à courir, à taper dans un ballon. Par exemple, taper dans un ballon, c'est un très très bon exemple. Les liens entre le geste de taper dans un ballon de toutes ses forces et de taper du pied, d'un point de vue purement même de l'incorporation des compétences physiques, sont tout à fait probables, en fait. Parce que c'est quasiment le même geste. Souvent, des choses qui se développent ne sont pas entièrement le résultat de choses intentionnelles, quoi. Et plus exactement, il y a des choses intentionnelles qui ont été faites pour développer certaines capacités, mais elles vont aller avec d'autres. En l'occurrence, on a voulu développer un petit gamin footballeur, et puis en même temps, on aura potentiellement, alors c'est pas mécanique non plus, c'est pas parce qu'il peut le faire qu'il le fera, un gamin qui va être non seulement footballeur, mais un peu tapeur du pied. Donc ça, c'est des choses qui font un petit peu réfléchir aussi, parce que sur cet apprentissage, par exemple, auquel moi je souscris sur le principe d'avoir des enfants dynamiques, je trouve ça important, plutôt que des enfants un peu mous, pas courageux, etc. Mais vous voyez, en fait, ça c'est intéressant d'ailleurs pour les parents, et je pense pour tous les éducateurs, c'est comment on fait pour atteindre des buts qu'on aime bien éducativement, par exemple le courage, le dynamisme, sans se retrouver pris dans des buts qu'on ne veut pas atteindre, c'est-à-dire, par exemple, la violence physique. Alors, en fait, la vérité, c'est que je pense qu'il faut prendre tout en compte. C'est-à-dire qu'il est certain que voir des parents qui seraient violents entre eux ou qui seraient violents avec soi, voir des dessins animés violents, ça peut avoir des effets de légitimation du geste violent comme étant un geste normal. Mais la légitimité, ça fait pas le tout de l'engagement dans une pratique, en l'occurrence dans une pratique violente. Il faut quand même être capable de la faire. Je veux dire, c'est pas parce que vous regardez le football à la télévision que vous êtes capable d'être footballeur. C'est pas parce que vous voyez, vous êtes régulièrement témoin de ce que font vos parents entre eux que vous voulez faire comme eux. Parce que parfois, justement, on se dit ah, « j'en ai marre de ça, j'aime pas cette manière d'être ». Là, je parle d'adultes, mais il faut imaginer que les enfants... Il ne faut pas tout le temps en fait, séparer le monde de l'enfance et en faire comme si c'était un espèce de peuple entièrement différent en fait, du peuple des adultes.
Selon les observations de Wilfried Ligné, le milieu social joue sur l'expression de la violence dans le cadre de la crèche. Et c'est notamment parce que le comportement des enfants dans une institution dépend de la proximité entre la culture de l'institution et la culture familiale. Rien de nouveau là-dedans, c'est déjà ce qu'expliquait le sociologue Pierre Bourdieu dans les années 60. Et donc, Wilfried Ligné a observé que les enfants les plus violents physiquement sont ceux qui ne parviennent pas à s'approprier la culture de la crèche. Or, elle ressemble au monde des familles aisées.
Globalement, la crèche est un dispositif, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est déjà situé socialement, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux attentes en général sur ce que c'est qu'un comportement correct, la capacité de s'approprier les jeux qu'elle propose, d'être occupé à autre chose que taper, ils vont être de toute façon décalés. Donc je vais donner un exemple concret. Si vous avez occupé les enfants à, par exemple, faire du dessin ou faire de la pâte à modeler ou jouer à un petit jeu pour coller des gommettes, peut-être de loin, quand on ne connaît pas trop les questions de l'enfance, qu'on n'est pas un spécialiste de ces questions, on peut dire, bon, moi, c'est vraiment des jeux d'enfance, quoi, en toute généralité. Mais ce n'est pas le cas. C'est des jeux qui sont situés socialement dans le sens où il y a des familles où on les fait un peu aussi à la maison. Donc il y a un certain nombre d'enfants, quand ils retrouvent ce jeu en crèche, c'est un jeu qu'ils connaissent déjà, et donc ils sont facilement occupés à ça. Ils se mettent à le faire, ils savent le faire, ils aiment bien, ils ont appris à apprécier, donc ils font ça. À l'inverse, en fait, tendanciellement, les enfants des classes populaires, on ne fait pas ça chez eux. Ils découvrent. Ils n'arrivent pas à les maîtriser, ça les occupe moins, ils ne savent pas comment s'y prendre, ou ils le font mal, et ça se voit. Des fois, il y a des autres enfants qui leur disent, oh, tu fais n'importe comment quand ils sont un peu grands. Ah, il ne sait pas faire. Donc, ça les met un peu à distance. Donc, ils sont quand même un peu comme esselés, comme isolés dans ce truc-là. Et bah, la question de faire n'importe quoi, dont taper, elle devient plus probable.
Si le monde de la petite enfance, et notamment celui des crèches, s'alignait avec ce que dit Wilfried Ligné, à savoir que la violence entre les enfants existe, que se passerait-il ? On aurait probablement des parents paniqués chaque jour à la sortie. Selon Wilfried Ligné, on attend des crèches, implicitement, qu'elles minimisent les situations de violence. Parce que les enfants sont tous bons, rappelez-vous. Mais moi, ce qui me pose problème là-dedans, c'est qu'on inculque et on valorise la violence des garçons, et dans le même temps, on nie l'agressivité des enfants. Résultat, on reporte la faute sur les parents. Si un enfant est violent, c'est que le parent a mal fait son travail. Quand Nathaniel vous racontait qu'on lui avait suggéré d'enlever son enfant de la maison d'assistante maternelle, c'est lui qui est puni. Et c'est lui qu'on accuse de ne pas tenir son enfant. Que les parents s'inquiètent ou non, c'est de leur faute.
Ça serait très récent de considérer comme problématique réellement en fait, les comportements des enfants à partir du moment où ils modifient le cours de la vie familiale, les possibilités de relations qu'on a avec l'extérieur, etc.
Nathaniel.
Et moi, ce qui s'est passé pendant ces quelques mois qui m'a attristé, c'est qu'en fait, un jour, je vais à la mam et je demande à l'assistante maternelle « Mais alors, dis donc, avec quel enfant il joue ? C'est qui ses copains ?» Et en fait, elle nous dit « Bah, il a pas d'amis ici, puisqu'il arrête pas de mordre, et donc les autres, ils le bannissent, ils le pointent du doigt, ils veulent plus jouer avec lui. » Donc là, moi, j'ai commencé à voir qu'en fait, il avait un regard hyper mélancolique, il était un peu, il voulait plus trop jouer, tout ça. Et en fait, ça fend le cœur en tant que parent. On faisait ce qu'on pouvait, en fait, on essayait de parler avec lui. Donc ce qui revenait souvent aussi dans ce qu'on nous disait, c'est il ne faut pas en faire un sujet. Donc nous, on essayait d'en parler le moins possible, sauf que tous les soirs, bon, on est inquiet, on arrive, on va le chercher. Et on dit comment ça s'est passé. Et évidemment, tous les soirs, on a un regard de l'assistante maternelle qui dit bah, ça s'est mal passé. Donc nous, on allait le chercher inquiet. Et la discussion qu'on a eue avec cette maman, c'est qu'elle aussi, tous les soirs, elle arrivait avec une boule au ventre pour récupérer son petit. Et tous les matins, elle en est avec une boule au ventre en ayant peur qu'il se fasse mordre. Donc c'était vraiment un cercle assez vicieux. Et donc finalement, le travail avec la psychomotricienne qui a décelé un peu ces traces de fatigue, de frustration, qui nous a donné pas mal de conseils sur comment gérer ça. Elle nous a posé aussi plein de questions sur ce qui se passait à la maison. En fait, on en arrivait à la conclusion qu'en effet, le langage jouait pour beaucoup, qu'il était fatigué, c'était la fin de l'année, l'air de rien, et en fait, ils sont tout le temps en communauté. Les grandes vacances sont arrivées, on a aussi pu passer beaucoup de temps avec lui, beaucoup de temps à le reposer. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est passé. À la rentrée, il mordait quasiment plus. Il a commencé à s'adoucir, on va dire.
Wilfried Ligné.
Je pense que la plupart des enfants qui mordent et qui tapent, là où il faut rassurer les parents, à 17 ans, ils ne font pas ça. Ils ne vont pas mordre, par exemple, littéralement. Mais ce n'est pas les préludes à un enfant, à un adolescent violent. Je pense que la vraie question qu'on devrait poser, qui paraît un petit peu moins dramatique, donc qui peut être un petit peu apaisante pour les parents, mais dont il faut quand même voir en fait l'aspect un peu plus sombre, c'est est-ce qu'il n'est pas de manière générale en train d'apprendre qu'il peut être violent, pas forcément sur le mode physique, c'est-à-dire qu'en gros, le s'imposer, que faire mal aux autres, c'est pas grave. Ça, je pense que c'est un problème plus important que le fait même d'avoir tapé. La plupart des enfants, en général, au bout d'un moment, ils vont arrêter de taper. Ben, je pense qu'on doit s'inquiéter quand on commence à se dire est-ce qu'il n'est pas en train de prendre un goût pour le fait de faire souffrir les autres ? Il y a un exemple par exemple, typique, un peu empirique là-dessus, c'est qu'il y a des enfants qui tapent en riant. Voilà. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'il faut quand même voir, en fait. Parce que c'est aussi des choses qui sont, bon, qui par ailleurs s'opposent à l'idée du débordement pas maîtrisé. Il y a des formes de plaisir, en fait, de faire des choses violentes qui sont, à mon avis, qui devraient inquiéter plus que les gestes mêmes qui seront abandonnés la plupart du temps.
Il n'y a pas de raison de paniquer parce que son enfant a un jour tiré les cheveux d'un autre enfant. En revanche, on peut toutes et tous garder en tête qu'éduquer un enfant, ça n'est pas juste lui apprendre à lire, à dire s'il vous plaît, merci, ou à s'assurer de sa réussite scolaire. On l'éduque aussi à l'empathie, à être attentif à la souffrance des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui apprendre à étouffer ses désirs ou à ne pas se défendre quand on essaie de lui voler un jouet. Mais qu'il y a des limites, celles du respect de l'autre. On porte tellement d'attention au développement de l'enfant qu'on finit par oublier que le but, c'est quand même d'élever un citoyen capable de vivre en société. Et à plus petite échelle, un membre de la famille qu'on aime bien. On se repose sur l'idée qu'on aime toujours ses enfants. Mais on peut les aimer sans les trouver aimables. Et être gentil, à mon sens, ça reste plus important que de savoir réciter l'alphabet à l'envers.
Je crois qu'éduquer, c'est ça. Éduquer, c'est être capable d'arrêter des pratiques qu'on ne veut pas. Et ça, c'est un peu le fait qu'on est, surtout sur les jeunes enfants, dans le déni du rapport éducatif qu'on a aux jeunes enfants, qui fait qu'on finit par se poser des questions presque absurdes, de l'ordre de « est-ce qu'il faut que j'arrête des pratiques que je ne veux pas, dont je ne veux pas qu'elles se développent ?» Bah oui. Alors, on ne contrôle pas tout, mais quand les choses surviennent, effectivement, en fait, moi, ma conviction, c'est que plus on interviendra, alors, dans des modalités qu'il faut définir, hein, il ne s'agit pas d'être violent soi-même avec les enfants, mais c'est sûr qu'il faut savoir qu'on veut des choses quand on éduque. On veut des choses. Je crois que ce serait bien qu'on veuille, par exemple, que les petits garçons ne soient pas violents.
Je suis Marine Revol et c'était Fête des Gosses, une production Louis Média. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui, la musique est de Jean Thévenin. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On se demandera si nos futurs tueurs en série ne seraient pas en plus HPI.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal. Mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.